et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
Aujourd'hui, c'est le 24e dimanche du temps ordinaire. Mais ici, en notre prieuré, nous faisons mémoire de la dédicace de cette église canoniale consacrée par Mgr Billet le 11 septembre 1994, ce qui fait que, en droit liturgique, c'est la solennité de cette dédicace qui prime sur le dimanche ordinaire. Alors, en faisant mémoire de cette consécration de ce lieu pour la rencontre de Dieu et des hommes, eh bien, nous rendons grâce pour tout le bien qui s'y est fait pendant ces 28 ans, pour le bien qui continuera à s'y faire. Et nous demandons aussi que ce lieu contribue effectivement à la sanctification de ces temples que nous sommes chacun, chacune. Entrons justement dans cette rencontre qui nous sauve, en reconnaissant combien nous avons besoin d'être purifiés, nettoyés, entretenus, comme chacune de nos églises de pierre. Reconnaissons que nous avons péché.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Nos pères, dans le désert, avait l'attente du témoignage. Elle avait été faite d'après les ordres de celui qui parlait à Moïse et qui lui en avait montré le modèle. Après avoir reçu cette tente, nos pères, avec Josué, la firent entrer dans le pays que les nations possédaient avant que Dieu les chasse loin du visage de nos pères. Cela dura jusqu'au temps de David. Celui-ci trouva grâce devant Dieu et il pria afin de trouver une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui lui construisit une maison. Pourtant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Parole du Seigneur.
Bravo. Alléluia, 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 Alléluia. Envoie ta lumière et ta vérité, Seigneur, qu'elle me conduise à ta montagne sainte. Jusqu'en ta demeure. Alléluia,
le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, une femme de Samarie dit à Jésus : Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. Acclamons la parole de Dieu. Lorsqu'il nous est donné de pouvoir partir en pèlerinage, c'est en principe une grande joie, parce que nous attendons cette démarche comme un temps fort, un temps de grâce, source de bienfaits pour nous-mêmes, pour les autres pèlerins et pour ceux que nous prenons dans notre prière. C'est cette joie que laisse éclater le psalmiste pèlerin dans le psaume que nous avons chanté, entendu ce jour. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai « Paix sur toi ». Il est vrai en effet qu'il y a des lieux particulièrement favorables pour vivre une démarche spirituelle et rencontrer le Seigneur. Dans la première alliance, Jérusalem était cette ville sainte où le peuple de Dieu était convoqué chaque année pour les trois grandes fêtes liturgiques afin d'y renouveler l'alliance avec le Seigneur. Aujourd'hui, se mettre en route sur les pas de Jésus, ceux des apôtres, ou vers les nombreux sanctuaires, peut aussi être un moyen favorable pour se laisser transformer par la grâce. Marie à Lourdes n'a-t-elle pas convoqué aussi ses enfants ? Allez dire au prêtre que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. Et pourtant, nous l'avons entendu dans l'évangile de ce jour, Jésus lui-même relativise l'importance du lieu pour rencontrer le Seigneur et l'adorer. « Crois-moi, femme, dit Jésus à la Samaritaine, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Si Jésus peut affirmer cela, c'est d'abord parce qu'il est le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. Et que depuis sa résurrection, il nous est présent de multiples manières, nous pouvons le rencontrer de multiples manières. Et c'est ce que rappelait Mgr Billet ce 11 septembre 1994 en consacrant cette Église. Je cite, « Après l'incarnation et la résurrection de Jésus, c'est dans son corps que Dieu vient à nous et qu'il se donne à rencontrer. C'est le corps ecclésial du Christ qui est à jamais le lieu de la rencontre. C'est au milieu de son peuple que Dieu habite. » Si Jésus relativise l'importance du lieu pour rencontrer Dieu, c'est aussi parce que l'essentiel de cette démarche n'est pas extérieur, mais intérieur, une disponibilité intérieure à l'Esprit Saint, qui est esprit de vérité. Dieu est esprit, dit Jésus, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. Si Jésus donc est le lieu, la demeure parfaite et définitive de Dieu parmi les hommes, c'est pour que nous aussi, chacun personnellement et ensemble, devenions la demeure de Dieu. Et je reprends les mots de Mgr Billet, ce peuple de Dieu, en sa condition humaine, ne peut pas se passer de maisons qui accueillent ces rassemblements et abritent ces prières. La nécessité, poursuit-il, rencontre le mystère. Le peuple de Dieu que nous sommes ne peut pas se passer d'une habitation de pierre pour aller vers son Dieu. En même temps, l'habitation de Dieu, c'est son peuple. Nous ne construisons d'église que pour nous laisser construire en Église. Alors, nous pouvons nous poser trois questions ce matin, me semble-t-il. Quels soins avons-nous de ce temple de Dieu que nous sommes chacun personnellement? Quels soins avons-nous de ce temple de Dieu qu'est l'Église, corps du Christ? Quels soins avons-nous de nos temples de pierre dont nous avons aussi besoin? Quels soins avons-nous de ce temple de Dieu que nous sommes, chacun personnellement, depuis notre baptême? Est-ce que nous l'entretenons, le nettoyons régulièrement par le sacrement du pardon? Nous aimons trouver des églises propres. C'est vrai que quand on va dans d'autres pays, c'est souvent nickel et on se dit, mon Dieu, on aurait des leçons à prendre. Bref, les moyens ne sont pas les mêmes, je sais. Est-ce que nous aérons? Je suis très sensible à l'aération. Est-ce que nous aérons chaque jour ce temple intérieur que nous sommes en laissant entrer le souffle de l'Esprit Saint par la prière? Vous vous souvenez que Jean 23 disait, en convoquant le concile, que l'Église avait besoin d'un grand courant d'air. Eh bien, je crois que nos temples intérieurs ont besoin tous les jours d'aérer. Et c'est la prière qui aère nos cœurs, qui permet à l'Esprit Saint de renouveler notre intérieur. Est-ce que nous avons un cœur d'offrir chaque jour au Seigneur, dans ce temple intérieur, des actes de louange? Vivez dans l'action de grâce, nous dit saint Paul. Est-ce qu'on le met en pratique ou est-ce qu'on passe nos journées à gémir? Des actes de louange et des actes de charité, bien sûr, voilà, et dans la situation où nous sommes, avec des grandes ou plus modestes responsabilités, dans l'ordinaire de chaque jour, comme c'était le cas à Nazareth, eh bien, offrir ce travail, ce labeur, ces petites choses de rien du tout, mais qui prennent une valeur éternelle, un poids éternel, lorsque nous les offrons au Seigneur et lorsque nous essayons de bien les faire par amour pour lui et pour nos frères. Quels soins avons-nous de ce temple de Dieu que nous formons tous ensemble, de l'Église, corps du Christ? Est-ce que nous l'aimons vraiment avec réalisme? Est-ce que nous l'aimons vraiment de miséricorde? Elle est belle, notre Église, dit souvent notre évêque. Oui, elle est belle. Quand nous le regardons justement dans son aspect aussi je dirais, le plus profond de mystère et de mystère d'un Dieu qui l'habite, ce peuple de Dieu. J'étais à une sépulture cette semaine, sépulture d'une vieille maman de 97 ans. Eh bien, en entendant le tracé de sa vie et ses témoignages, que c'est beau une vie quand elle est vraiment ouverte à Dieu. Et c'était le cas. Une personne qui pourtant a souffert dès sa prime enfance, dès 13 ans, elle a perdu sa maman. Et puis bien d'autres, elle a perdu deux enfants. Mais ça ne l'a pas repliée sur elle-même. Elle a continué à se donner à ses 9 autres enfants. Que c'est beau, une vie, un temple de Dieu qui se laisse vraiment conduire jour après jour par l'Esprit Saint. Oui, est-ce que nous aimons ce corps de l'Église, ce corps entier? Est-ce que nous l'aimons de miséricorde avec ses beautés, mais aussi avec ses misères? Non pas, pactiser avec le péché, mais vivre la miséricorde. Oh, je crois que nous avons tous besoin de nous convertir dans le quotidien, cette miséricorde. La grâce des grâces, disait, je crois, Claudel, Bernanos, je ne sais plus, c'est de s'accueillir les uns les autres comme des membres blessés de Jésus-Christ, que c'est vrai. Oui, comme le Christ a aimé l'Église blessée dans ses membres, il l'a aimée jusqu'à se donner, se livrer pour elle, eh bien, nous avons aimé l'Église ainsi. Ou est-ce que nous sommes souvent dans la critique de ses membres? Est-ce que nous sommes artisans de communion ou de division? Est-ce que nous savons apprécier les talents, les dons des autres, ce qu'ils peuvent apporter, que nous n'apportons pas, et ensemble construire cette Église du Christ, ce corps du Christ? Comment est-ce que je contribue à la vitalité de l'Église, du corps tout entier, en me mettant d'une manière ou d'une autre au service des autres? Il y a tellement de pistes, de moyens de servir, de nous servir les uns les autres, de servir le Seigneur en servant nos frères. Et puis, quel soin nous avons de nos temples de pierre aussi, ne les oublions pas. J'ai eu l'occasion avec des prêtres du diocèse de rencontrer Monseigneur Haber, évêque aujourd'hui de Bailleul-Lisieux, qui disait que il me faisait sourire en disant que lorsqu'il rencontrait les maires des communes, première question qui les intéressait, c'est les églises. Ben oui, qu'est-ce que vous nous proposez pour nos églises de pierre? Alors, il disait, on en parlera tout à l'heure. Parce que, bien sûr, pour un évêque, ce qui est le plus important, c'est cette église de chair, les membres, le peuple de Dieu qui habite sur ces communes. Mais il reste que nous avons besoin de ces temples de pierre, effectivement, et comment prenons-nous soin? Comment puis-je contribuer, moi, à l'ouverture, à la propreté, à l'entretien, à la conservation, à la mise en valeur et à l'attrait de nos églises, de mon église, de ma commune, sans aller à Perpète? Parce que ces lieux, s'ils sont ouverts et accueillants, sont par eux-mêmes déjà des lieux qui évangélisent. Et nous savons combien il y a des personnes, chrétiens ou non, baptisés ou non d'ailleurs, qui viennent s'arrêter, se poser dans des églises et qui ne vont jamais à la messe. Mais mystérieusement, le Seigneur les attire pour leur parler cœur à cœur. Quelque chose qui nous échappe. Mais qui est là. Importance d'ouvrir nos églises et de les entretenir pour que ce soit des lieux, oui, accueillants, évangélisateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité, dit Jésus. En vérité, c'est-à-dire en acte. Parce que ce même Saint Jean nous dit dans une de ses lettres, aimons non pas avec des paroles et des discours, mais en acte. Et donc, adorer en vérité, c'est adorer par des actes concrets. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Alors demandons à Marie, puisque cette église aussi a été élevée en son honneur, et pour rendre gloire à Dieu en contemplant Marie et en la priant, demandons à Marie, premier tabernacle de Dieu, parfaite adoratrice du Père et du Verbe fait chair, de nous entraîner dans cette adoration en esprit et vérité. Amen.